Radio France Internationale, il est 6h, en temps universel, 7h à Paris et à La Haye.
RFI Matin.
Le journal. Bonjour Martin Guez.
Bonjour Marion, bonjour à toutes et à tous.
À la une, cette audience déjà historique devant la CPI, celle de Rodrigo Duterte.
Une petite demi-heure en visioconférence, l'ex-chef d'État philippin apparu affaibli pour ce qui restera comme la première audition d'un ancien dirigeant du continent asiatique devant la Cour pénale internationale. Audience pour crime contre l'humanité après la guerre contre la drogue de Duterte qui a fait des dizaines de milliers de morts. Audience très suivie aussi à Manille, la capitale des Philippines, notamment par les familles des victimes.
Deux très bonnes discussions entre Washington et Moscou, selon Donald Trump.
Le président américain qui se veut optimiste quant à sa proposition de cesser le feu en Ukraine. Le président américain qui appelle Vladimir Poutine à épargner la vie de milliers de soldats ukrainiens. Reportage à suivre aussi à Ramallah, en Cisjordanie occupée, auprès de ces Palestiniens privés d'emploi depuis le 7 octobre 2023. Des Palestiniens qui travaillaient jusqu'alors en Israël. L'ambassadeur sud-africain aux États-Unis, désormais persona non grata, la présidence sud-africaine qui regrette. Lumnanaki nous dira pourquoi. Enfin, soirée de soutien hier à Strasbourg, à Boualem Sansal, l'écrivain franco-algérien enfermé depuis désormais 4 mois à Alger.
Cela n'a duré que quelques minutes, mais le moment est déjà historique. Première audience pour Rodrigo Duterte devant la CPI.
Ah oui, premier ex-chef d'État du continent asiatique à comparaître devant la Cour pénale internationale. L'ancien président philippin répond d'accusations de crimes contre l'humanité pour sa guerre contre la drogue. Il avait ordonné de tuer des dizaines de milliers de personnes pour lutter contre le trafic. Rodrigo Duterte, 79 ans, apparu en costume bleu, en visioconférence et à Manille, la capitale philippine. L'audience était également très suivie, notamment par les familles des victimes. Notre correspondante, Nemo Lecoq-James, était à leur côté. Reportage.
Sur les genoux des 8 femmes assises devant le grand écran, il y a des photos de leurs proches assassinés sous les ordres de Duterte.
C'est mon mari, il était âgé de 34 ans quand il est mort.
Ici, le petit public est très silencieux pendant l'audience. Le moment est solennel. Duterte a comparu par liaison vidéo pour cause de fatigue et de maladie. Pour les femmes présentes dans la salle, c'est une stratégie de victimisation. Jane Lee a perdu son mari qui a été tué il y a 8 ans. Aujourd'hui, ses émotions sont partagées.
Je ne peux pas croire qu'il soit affaibli. Il n'est même pas physiquement venu à l'audience. Mais avec les autres familles, nous sommes quand même très heureuses. Car au moins, il a été arrêté et il est maintenant là-bas, à la Cour pénale internationale.
L'audience était rapide, elle n'a duré qu'une vingtaine de minutes et l'ancien président a seulement dû confirmer son identité. Mais pour Christina Contis, avocate des familles des victimes de la guerre contre la drogue, cette journée est historique.
C'est le bureau du procureur contre Rodrigo Duterte. C'est surréaliste d'une certaine manière. Car ça montre vraiment que maintenant c'est une affaire judiciaire, alors qu'avant on appelait ça la situation philippine.
La prochaine audience de Rodrigo Duterte est fixée au mois de septembre prochain. D'ici là, les victimes espèrent qu'il ne sera pas autorisé à revenir aux Philippines. Nemo Lecoq-James, Manille, RFI.
Donald Trump appelle Vladimir Poutine à épargner la vie de milliers de soldats ukrainiens sur le front.
Après le passage de son émissaire Steve Witkoff à Moscou, le président américain qui a évoqué de très bonnes et productives discussions avec Vladimir Poutine. Donald Trump qui estime qu'il y a de grandes chances que cette guerre terrible et sanglante prenne fin. Donald Trump qui espère que la proposition américaine de trêve en Ukraine sera rapidement acceptée par Moscou.
Je pense que la Russie va conclure un accord avec nous, j'espère. Nous avons parlé avec le président Poutine, nous avons parlé avec beaucoup de gens et l'Ukraine attend. Je suis très préoccupé par le front. Il y a actuellement au front un groupe très vulnérable de soldats ukrainiens qui sont encerclés. Et ce n'est pas bon car nous ne voulons pas qu'ils meurent.
Et Vladimir Poutine s'est lui dit sensible à l'appel de son homologue américain. Il a appelé les combattants ukrainiens à la reddition à Koursk. S'ils déposent les armes et se rendent, leur vie sera garantie, a-t-il certifié le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a lui reconnu que la situation dans la région russe de Koursk était très difficile, mais que ses soldats s'y battent de manière absolument héroïque, selon ses mots.
À pied ou à vélo, les étudiants serbes affluent déjà à Belgrade.
La capitale où des dizaines, peut-être des centaines de milliers de personnes sont attendues ce samedi pour une nouvelle journée de manifestation. La mobilisation anticorruption dans le pays qui dure depuis plus de 4 mois. La pression s'accroît sur le président Aleksandar Vučić, au pouvoir depuis 13 ans. Un pouvoir fragilisé qui mobilise aujourd'hui des policiers anti-émeutes dans la capitale. Les premiers manifestants ont fait une entrée triomphale à Belgrade sous les yeux de l'envoyé spécial de RFI, Jelena Tomić.
Des sourires, des larmes, des applaudissements, cela fait des mois que les mêmes scènes de liesse éclatent partout en Serbie. Hier soir, des dizaines de milliers de Belgradois ont accueilli dans une ambiance festive leur libérateur dont la bravoure et la détermination forcent le respect. Depuis 5 jours, certains d'entre eux ont entamé des marches de plus de 190 km depuis Niš au sud ou Subotica au nord pour rejoindre la capitale avant le grand rendez-vous de ce samedi qui s'annonce déjà comme historique. Familles, petits et grands, jeunes et plus âgés, ont explosé de joie à l'arrivée des marcheurs pour lesquels on a sorti le tapis rouge. Les artères centrales, noires de monde, ont de nouveau résonné au son des sifflets et des vuvuzelas et du désormais fameux cri de ralliement « Pumpaj », devenu le symbole de cette révolte étudiante et qui signifie littéralement « pompe », comme pour faire exploser un ballon. Jelena Tomić, Belgrade, RFI.
Et début de la manifestation prévue à 15h, temps universel, devant le Parlement serbe. On y revient tout au long de la journée sur RFI.
Le G7 appelle à la reprise de l'aide humanitaire à Gaza.
Une aide humanitaire qui n'entre plus dans le territoire enclavé depuis plus de 10 jours, alors que les négociations sur le futur du cessez-le-feu piétinent entre Israël et le Hamas. Le mouvement islamiste palestinien qui dénonce aussi le blocage de l'aide humanitaire. L'État hébreu qui prive aussi Gaza d'électricité, des conditions de vie alarmantes pour les Palestiniens également, en Cisjordanie notamment. Pour ceux qui travaillent en Israël, cela représente environ 200 000 personnes qui ont perdu leur emploi du jour au lendemain, après le 7 octobre 2023. Leurs permis de travail ont été révoqués, laissant des milliers de vies en suspens à Mira Sulem.
À la fois affairé et pensif, Shadi sert le dîner dans un petit hôtel de Ramallah. Tour à tour garçon, homme de ménage ou technicien, il tente de se réinventer une vie.
Le 1er mai 2022 est le premier jour où j'ai commencé à travailler en Israël. Puis la guerre a commencé. L'hôtel dans lequel je travaillais a accueilli les Israéliens qui vivaient à la frontière avec Gaza. Et donc c'était compliqué pour moi de rester travailler là-bas. Des travailleurs palestiniens ont été emprisonnés ou tués après le 7 octobre. Je me suis alors échappé en me cachant dans un camion de fruits et c'est comme ça que je suis arrivé à Naplouse.
Ce père de 3 enfants, ancien travailleur dans un hôtel de Haïfa en Israël, est désormais séparé de sa famille restée à Gaza. À Ramallah, il dit gagner 20 euros par jour contre 100 auparavant. Son avenir, il a bien du mal à l'entrevoir.
Mon but, c'était de partir avec ma famille, n'importe où, dans n'importe quel pays du monde. Mais depuis que Trump a parlé de nous déplacer, j'ai changé d'avis. Qu'on me force à devoir quitter mon pays, je ne peux pas accepter cela. C'est une trahison.
Des sources sécuritaires israéliennes estiment que près de 40 000 travailleurs palestiniens sont retournés travailler illégalement en Israël. Amira Sulem, Ramallah, RFI.
Voilà, très beau reportage à retrouver également en une de notre site internet www.rfi.fr, la situation des Palestiniens à Ramallah comme à Gaza. On y revient dans un instant, Marion, avec votre invité Grégoire Rivière, coordinateur terrain de l'ONG Solidarité Internationale. Il revient tout juste de Gaza, où il était encore ce jeudi.
RFI 8h08 à Pretoria, 2h08 à Washington. C'est la crise entre l'Afrique du Sud et les États-Unis.
Les États-Unis, où l'ambassadeur sud-africain a été déclaré persona non grata. Ebrahim Rasoul n'est plus le bienvenu à Washington. Selon Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine, une expulsion regrettable, déclare ce matin la présidence sud-africaine. Ebrahim Rasoul, accusé d'haïr les États-Unis, d'haïr Donald Trump. En poste depuis 2 mois, l'ambassadeur est aussi dans le viseur d'un certain Elon Musk, bras droit du président américain natif d'Afrique du Sud. Correspondance de RFI aux États-Unis, Lubna Naki.
Comme désormais une grande partie de l'administration Trump, c'est sur le réseau social X que Marco Rubio a annoncé la nouvelle. L'ambassadeur d'Afrique du Sud n'est plus le bienvenu dans notre grand pays, a écrit le secrétaire d'État. Il accuse Ebrahim Rasoul d'être, je cite, un politicien qui nourrit les tensions raciales, qui est les États-Unis et qui est le président. Des déclarations qui font suite à un discours donné par le diplomate sud-africain lors d'une conférence organisée par un institut basé à Johannesburg. Discours dans lequel Ebrahim Rasoul expliquait que Donald Trump menait, je cite, une politique de suprématie blanche. Déclarer l'ambassadeur persona non grata n'est que la dernière illustration des tensions entre Washington et l'Afrique du Sud. Peu de temps après son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump avait accusé Pretoria de traiter les descendants de colons européens de façon injuste. Il avait même créé une procédure d'asile pour accueillir ceux qui fuiraient, selon lui, la discrimination. discrimination raciale du gouvernement sud-africain. Des critiques répétées également par l'allié de Donald Trump, Elon Musk, lui-même sud-africain. Il a à plusieurs reprises accusé le gouvernement de son pays natal de discrimination envers les populations blanches. Le mois dernier, le président Ramaphosa avait lui dit vouloir se rendre aux États-Unis pour tenter de désamorcer la situation entre les deux pays. Loubna Anaki, New York, RFI.
En Guinée, la junte suspend deux des principaux partis du pays.
À 8 de suspension d'envergure accompagnée de 27 dissolutions, grand ménage opéré par le pouvoir du général Mamadi Doumbouya. Suspension notamment du RPG, parti de l'ex-président Alpha Condé, pour une durée de 3 mois. Même sort pour l'UFR, formation de l'ex-premier ministre Sidya Touré. La Guinée qui a promis l'organisation d'élections en cette année 2025, élections législatives comme présidentielles.
Soirée de soutien à Boualem Sansal en France.
Boualem Sansal, incarcéré depuis 4 mois en Algérie. Arrêté pour atteinte à la sûreté de l'État algérien, l'écrivain de 75 ans, devenu symbole des tensions entre Paris et Alger. Son avocat, François Zimré, qui a annoncé cette semaine son intention de saisir les Nations Unies pour dénoncer une détention arbitraire. Hier, sous l'impulsion de la LICRA et du journal Marianne, personnalités et anonymes se sont réunis à Strasbourg, dans l'est de la France, pour réclamer une plus forte mobilisation pour la libération de Boualem Sansal. Reportage, Vilouane Munoz-Boileau.
Une centaine de personnes ont répondu à l'invitation de la LICRA et du comité de soutien à Boualem Sansal. Au premier rang, des personnalités politiques locales et nationales de différents bords, comme l'ancien ministre de l'éducation macroniste Jean-Michel Blanquer ou l'ancienne ministre de la culture socialiste Catherine Trautmann.
Au sein de la France, nous devons avoir une expression forte qui soit transpartisane, qui puisse donner le poids à ce que nous voulons exprimer, ce soutien sans condition à Boualem Sansal.
Pendant 2 heures, politiques et intellectuels ont débattu avec le public de l'affaire Boualem Sansal, s'interrogeant sur les moyens de pression au niveau local. Il a notamment été suggéré que Strasbourg affiche le portrait de l'écrivain dans ses rues et use de son statut de capitale européenne pour internationaliser la mobilisation. Tout au long de la soirée, des caricatures étaient projetées sur un écran, réalisé en direct par le dessinateur de presse algérien Rilas Aynouch. Condamné en Algérie pour atteinte au président à travers ses dessins et réfugié en France depuis 2020, il s'inquiète pour Boualem Sansal.
Connaissant les joueurs du régime algérien, je sais qu'il est dans une situation délicate et il peut perdre sa vie à tout moment.
D'autres soirées de soutien à l'écrivain franco-algérien sont prévues à Paris la semaine prochaine et à Marseille début avril. Vilouane Munoz-Boileau, Strasbourg, RFI.
Strasbourg comme à Paris. Il est 7h12, impossible de se quitter Marion sans évoquer la renaissance des pandas roux au Népal. Animal très mignon, vous en conviendrez, mais très menacé. En 2016, l'Union internationale pour la conservation de la nature tirait la sonnette d'alarme. La population de l'espèce réduite de moitié ces 20 dernières années. Il n'en reste plus que 10 000 dans le monde, dont 1/10 au Népal, où après des années de prévention, la population de pandas roux recommence à croître, des pandas roux rongeurs aux allures de peluche animal fétiche, j'en suis sûr, de Marion Cazeneuve, de retour pour la suite de RFI Matin.
Merci Martin Guez. Pandas roux ou quoi là, j'aime bien aussi les, mes deux animaux fétiches. Il est 7h13 à Paris, 6h13 en temps universel. RFI Matin, bienvenue. Si vous nous rejoignez, dans quelques minutes, notre grand invité international, on reçoit Grégoire Rivière de l'ONG Solidarité Internationale. Il revient tout juste de Gaza, où la situation humanitaire reste critique puisqu'Israël bloque l'acheminement de l'aide humanitaire depuis bientôt 2 semaines. Mais d'abord, on passe au journal des sports. Antoine Grenier de retour, la Ligue 1 pour démarrer et Nice rate encore le coche.
Les Aiglons avaient pourtant une occasion en or de mettre la pression sur l'Olympique de Marseille et la 2e place du classement. Il leur fallait pour ça une victoire sur Auxerre en ouverture de la 26e journée. Mais malgré l'ouverture du score de l'Ivoirien Evan Guessant, les joueurs de Francaise ont été rejoints dans le temps additionnel. Un point grappillé à l'extérieur qui fait plutôt les affaires des Auxerrois, reconnaît l'attaquant malien Lassine Sinayoko.
Ça fait du bien enfin à l'extérieur. Qui plus est à Nice, on savait que ça allait pas être facile, ils nous ont mis beaucoup de pression d'entrée, il y a eu un fait de jeu qui a fait qu'on enfin on y a cru, le coach nous a beaucoup crié dessus, il nous a dit qu'on était capable de faire beaucoup mieux, que ce soit en termes techniques ou d'envie. Et on a essayé de lui rendre ce qu'il nous a toujours donné tout au long de la saison et on est récompensé.
Lassine Sinayoko chez nos confrères de DAZN.
Et ce samedi, suite de cette 26e journée de Ligue 1 avec 3 rencontres.
Et dès 16h temps universel, Lille qui se déplace sur la pelouse de Nantes. Un LOSC 5e à égalité de points avec Monaco et qui va devoir se remettre de sa déception européenne du début de semaine. Éliminé par Dortmund en Ligue des Champions, les Lillois doivent rester mobilisés pour accrocher l'Europe la saison prochaine, prévient leur entraîneur Bruno Genesio.
Et je crois qu'on a tous une responsabilité. Nous, staff, en premier, les joueurs, on a une responsabilité envers nous-mêmes, envers le club, envers nos supporters, qui eux aussi méritent qu'on continue sur ce qu'on a fait depuis le début de saison, envers tout le monde, envers vous qui nous suivez, envers tout le monde. On a une responsabilité en termes de comportement et de résultats. C'est le football, il faut savoir digérer les défaites, les déceptions, les grosses déceptions. C'est ce que j'attends de tout le monde au club, à commencer par nous, le staff, et de tous les gens qui sont autour de nous.
Une 26e journée qui verra Monaco se déplacer à 18h TU sur le terrain d'Angers. Et enfin, Lens recevra Rennes à 20h05, temps universel.
En rugby, à présent, Antoine, l'épilogue ce soir du tournoi Destination.
Et un dernier coup de collier pour le 15 de France. Une semaine après son succès aigre-doux face à l'Irlande, l'équipe de France affronte l'Écosse au Stade de France. Une victoire et le tournoi est dans la poche, même s'il faudra aussi avoir un œil sur le match de l'Angleterre au Pays de Galles dans l'après-midi. Mais Fabien Galthié, le sélectionneur des Bleus, préfère se focaliser sur son match, jamais gagné d'avance face aux Écossais. Le patron du 15 de France parle d'expérience.
L'Écosse, on connaît bien depuis 6 ans, on l'a affronté souvent. On connaît aussi ce scénario face à l'Écosse il y a 4 ans, où on avait besoin de gagner le match en mettant un bonus offensif et un écart au score. Et au final, on a perdu. Pour avoir discuté avec Grégor Thomsen, après, c'était un facteur de motivation chez eux. C'est une équipe qui, quel que soit l'enjeu pour elle, vient pour gagner le match, clairement. C'est une équipe qui sait faire, qui sait gagner les matchs chez les plus grands adversaires. Elle a les arguments pour le faire, elle l'a déjà fait. Clairement, on se trompe pas sur ce qu'ils ambitionnent dans leur camp. C'est venir ici, gagner à Paris.
Fabien Galthié avec Babacar Diarra, grâce à qui vous pourrez suivre ce France-Écosse dans nos journaux à partir de 20h, temps universel.
Un mot de tennis, c'est le phénomène Mira Andreeva confirme à Indian Wells.
La Russe de 17 ans s'est qualifiée pour la finale du WTA 1000 californien. Andreeva s'est imposée en demi sur la numéro 2 mondiale Iga Świątek. Une victoire en 3-7, 7-6, 1-6, 6-3 qui lui permettra d'affronter Arina Sabalenka, numéro 1 à la WTA. La Biélorusse qui n'a pas traîné 52 petites minutes pour sortir Madison Keys 6-0, 6-1.
Le foot s'est fait, le rugby s'est fait, le tennis aussi. Un mot de Formule 1 pour terminer, Antoine.
Et le premier Grand Prix de la saison en Australie, ça sera demain, mais il y a quelques instants, McLaren, l'écurie championne du monde la saison passée, réalise le doublé en qualification. Lando Norris en pole devant son coéquipier Oscar Piastri. Max Verstappen, le champion du monde pilote, lui sera troisième sur la grille.
Le journal des sports, signé Antoine Grenier.
RFI Matin.
Au Guatemala, José Rubén Zamora a passé plus de 800 jours en prison entre 2022 et 2024. Le plus célèbre journaliste du pays, et qui a dénoncé de nombreuses affaires de corruption, pensait en avoir fini avec la détention arbitraire. Mais la justice vient de révoquer son assignation à résidence et de le renvoyer derrière les barreaux. De sa cellule, il promet de continuer le combat contre les mafias qui rongent le Guatemala et manipulent l'autorité judiciaire. Menace sur l'info avec Vincent Souriau.
L'affaire Zamora fait des remous jusqu'au sommet de l'État, car cette nouvelle incarcération indigne même le président du Guatemala, Bernardo Arevalo, qui a pris ses fonctions l'an dernier sous l'étiquette social-démocrate.
Non est José Rubén Zamora exclusivamente.
Ce n'est pas seulement José Rubén Zamora qui est touché. Ce ne sont pas uniquement les journalistes qui sont intimidés et menacés.
Es el pueblo de Guatemala el que sufre.
C'est le peuple du Guatemala qui souffre de la manipulation et de la criminalisation de l'appareil judiciaire visant à harceler ceux qui défendent la décence dans notre pays.
Zamora et son équipe travaillent depuis 30 ans sur les affaires de corruption. Il a publié plus de 300 enquêtes dans El Periódico, le quotidien qu'il a fondé en 1996 et qui a dû mettre la clé sous la porte pendant sa dernière détention. Un calvaire. Mis à l'isolement, bousculé par des surveillants sadiques, victime de fouilles inopinées pour l'empêcher de dormir, privé d'eau à répétition pendant plusieurs jours. Il a préféré mettre sa famille à l'abri à l'étranger pour éviter qu'on ne le fasse chanter. Mais le ministère de la Justice continue de s'acharner contre lui. Et même si sa voix fatigue, il ne veut pas baisser les bras.
Je ne peux que me déclarer innocent, persécuté, considéré comme un criminel. C'est encore une détention arbitraire et illégale. Et ça s'apparente aussi à des mesures de répression psychologique. mais je vais continuer à me battre.
La Cour constitutionnelle a statué en sa faveur. En 2023, elle a cassé sa peine de 6 ans de prison et demandé un nouveau procès. Il n'y a aucune raison objective de le maintenir enfermé jusqu'à ce que l'audience soit fixée. Amnesty International, Reporters sans frontières et de très nombreuses organisations internationales le décrivent comme un prisonnier politique. Son avocate exhorte la communauté internationale à se mobiliser, à mettre le Guatemala devant ses responsabilités et à employer des mesures fortes pour protéger la santé mentale et physique de José Rubén Zamora. Mais le harcèlement judiciaire vise aussi une dizaine de ses anciens collègues journalistes d'El Periodico, un titre emblématique qui a employé jusqu'à 400 salariés sans jamais coûter plus d'un dollar par exemplaire. Le vide créé par sa disparition se comble petit à petit grâce à de nouveaux venus dans l'espace médiatique comme Plaza Publica qui ont repris le flambeau de l'investigation.
Menace sur l'info, Vincent Souriau. Chronique à retrouver comme toutes les autres sur notre site RFI.fr ou bien notre application Pure Radio. Au Proche-Orient, toujours pas d'accord pour prolonger la trêve entre Israël et le Hamas. Des négociations ont repris cette semaine, mais ces discussions sont tendues. Et en attendant, à Gaza, les Palestiniens tentent de survivre malgré le blocage de l'aide humanitaire depuis près de 2 semaines. On en parle ce matin avec notre invité Grégoire Rivière. Bonjour.
Bonjour.
Coordinateur terrain à Gaza pour l'ONG Solidarité Internationale. Vous revenez tout juste de l'enclave palestinienne. Ce n'est pas votre premier déplacement à Gaza, mais on imagine que cela reste une mission difficile, éprouvante.
Oui, je reviens ce jeudi de Gaza et la situation est catastrophique. Les populations manquent de tout et ces 2 dernières semaines compliquent encore leurs conditions de vie.
Alors de quoi justement les Palestiniens aujourd'hui ont-ils le plus besoin? C'est quoi l'urgence principale?
Les Gazaouis manquent de tout en termes de biens essentiels, accès à l'eau, à la nourriture et aux abris. On estime aujourd'hui que plus de 66% des habitations ont été détruites ou endommagées. Donc les gens vivent dans des tentes sur leurs débris des maisons qui leur restent.
Et c'est ce que vous avez pu constater. Vous étiez où exactement à Gaza?
Donc Solidarité Internationale, on est basé dans le gouvernorat de Deir el-Bala. Mais on a des activités un peu dans tous les gouvernorats de la bande de Gaza. Donc aussi bien au sud, à Rafah, que dans les gouvernorats du nord de la bande de Gaza.
Allez-y.
Oui, du coup, c'est ce qu'on a avec le cessez-le-feu qui est rentré en vigueur le 19 janvier. On a pu aller dans des zones où on n'avait pas accès avant. Et ce qu'on constate, c'est un niveau de destruction inimaginable. Et donc, des conditions de vie vraiment difficiles pour les populations.
Et vous évoquiez donc ce blocage de l'aide humanitaire depuis à peu près 2 semaines par Israël. Quelles sont les conséquences de ce blocage? Comment a évolué la situation humanitaire?
Alors avant ce blocage, les biens humanitaires manquaient déjà. Donc là, ça renforce ce manque et du coup, les prix réaugmentent, les populations ont encore plus de mal à avoir accès à de l'eau, à de la nourriture. Donc certaines boulangeries, les cuisines communautaires sont en train de fermer par manque de carburant, de gaz.
C'est les taquias, c'est ça, les soupes populaires, on appelle ça. Est-ce qu'on peut dire aussi que, au-delà de la nourriture, qu'est-ce qu'on peut dire sur la situation sanitaire? Vous avez évoqué le manque d'eau, on manque d'eau courante, c'est difficile d'en trouver aujourd'hui à Gaza.
Oui, aujourd'hui on estime que les capacités de production d'eau potable à Gaza sont à moins de 25% de ce qu'elles étaient avant cette guerre. Donc les gens ont vraiment des difficultés à avoir accès à de l'eau potable et aussi de l'eau à usage domestique. Donc ça a des conséquences aussi en termes d'hygiène, et du coup avec des eaux usées aussi qui ne sont pas traitées, et qui renforcent les risques d'épidémies et de contamination.
Et de maladies. Le secteur hospitalier aussi est à terre, peu d'hôpitaux marchent. Comment est-ce qu'on prend en charge aujourd'hui les malades, les blessés?
Alors il y a certains hôpitaux qui continuent de fonctionner. Solidarité Internationale, nous on est plus un acteur qui travaille sur l'accès à l'eau. Donc nous on va fournir de l'eau aux personnes. Donc aujourd'hui, on délivre de l'eau quotidiennement à 54 000 personnes afin qu'ils puissent essayer d'avoir un minimum d'eau potable tous les jours.
Et comment justement vous arrivez à vous adapter, parce qu'il y a, avec le blocage de l'aide humanitaire, j'imagine aussi la difficulté à avoir de l'eau courante. Comment vous pouvez continuer à mener à bien votre mission?
Solidarité internationale, on a essayé de mettre en place des stratégies pour dépendre le moins possible de l'aide qui devrait rentrer. Donc en travaillant avec des matériaux disponibles sur place, on a réhabilité des stations de traitement de l'eau salée.
Et vous aviez les moyens, le matériel pour faire ça?
Alors, c'est de plus en plus compliqué de trouver des pièces de rechange, donc des membranes, des filtres pour faire fonctionner nos stations de traitement de l'eau salée. Donc voilà, on s'adapte au quotidien en essayant de trouver des solutions localement pour ne pas trop dépendre de l'aide qui a du mal à rentrer dans la bande de Gaza.
Et alors justement, est-ce que donc l'aide ne rentre plus depuis 2 semaines, est-ce que vous aussi vous avez peur qu'à terme ce soit à vous, les humanitaires étrangers, qui soient interdits d'entrer dans l'enclave? Est-ce que c'est une crainte?
C'est jusqu'à présent, Solidarité internationale, on a pu rentrer dans la bande de Gaza, donc on espère que ça continuera à être le cas. C'est un risque, mais voilà, pour ça on s'adapte au quotidien. On travaille aussi avec des équipes, nos équipes sont en grande majorité palestiniennes, donc on espère qu'on pourra toujours continuer à travailler dans la bande de Gaza.
Et quelles sont vos relations avec les autorités israéliennes? Est-ce que vous avez des échanges? Est-ce que vous ressentez parfois des tensions avec les autorités?
Donc pour toutes les entrées de biens et de personnel humanitaire, oui, on est en discussion avec les autorités israéliennes pour avoir les autorisations d'entrée. Et avant le cessez-le-feu aussi, on communiquait nos mouvements avec les forces de défense israéliennes via les Nations Unies. Donc c'est une discussion... Voilà, on a besoin de ces autorisations pour rentrer. Dernièrement, Solidarité internationale, on n'a pas eu de difficultés particulières pour rentrer le personnel. En revanche, l'entrée de biens humanitaires prend du temps.
Et Israël a aussi, il y a quelques jours, annoncé la coupure, des coupures de courant à Gaza, donc pour mettre un peu plus la pression sur le Hamas. Est-ce que vous avez réussi à avoir de l'électricité? Quelles sont les conséquences de ces coupures?
Donc effectivement, une des principales lignes d'électricité a été coupée. Donc aujourd'hui, on fonctionne avec du carburant. Et donc là, le carburant commence à manquer aussi parce qu'il rentre plus. Donc voilà, on va essayer d'optimiser l'utilisation du carburant, mais ça risque de devenir compliqué si ça continue.
Et les États-Unis sont en train de démanteler USAID, leur programme d'aide internationale. Est-ce que vous êtes concerné chez Solidarité internationale? Est-ce que ça pèse aujourd'hui sur vos activités à Gaza? Est-ce que vous receviez des financements?
À Gaza, on n'est pas impacté directement par ces décisions américaines. En revanche, au niveau global, l'ensemble de la communauté humanitaire est fortement impacté avec de nombreux programmes d'aide et de programmes humanitaires qui sont stoppés de façon assez brutale et qui du coup impactent directement des millions de populations déjà dans des conditions critiques.
Mais pas encore forcément à Gaza, ça se ressent moins à Gaza.
Pour Solidarité internationale, aujourd'hui, on n'est pas impacté directement par ces coupes à Gaza.
Alors, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, est-elle aussi en grande difficulté? Son chef, hier, a déploré une situation financière très tendue et prévenu d'un risque d'effondrement, d'implosion. J'imagine que vous croisez sur le terrain les personnes qui travaillent pour l'UNRWA. Quelles conséquences cela aurait, la disparition de cette agence, des activités de l'UNRWA à Gaza?
Aujourd'hui, l'UNRWA... Il y a un acteur très important dans la bande de Gaza, donc avec énormément d'activités dans le fonctionnement des écoles, par exemple. Et donc, ça serait vraiment catastrophique aussi s'ils étaient plus en capacité de travailler, ça viendrait impacter l'ensemble de la réponse humanitaire aussi dans la bande de Gaza.
Grégoire Rivière, pour terminer, les négociations sur une trêve se poursuivent, donc la reconstruction est souvent une question abordée dans ces discussions, mais quel est à ce sujet le sentiment global des Palestiniens? Est-ce qu'ils attendent des reconstructions ou est-ce que certains veulent au contraire changer de vie, aller ailleurs?
Aujourd'hui, les Palestiniens que je peux croiser sur le terrain ou mes collègues, ils sont plus en train de survivre que de vivre, et ils attendent de pouvoir vivre et de pouvoir reconstruire, réparer leur maison et reprendre une vie normale, mais on en est très loin aujourd'hui. Donc voilà, ils sont fatigués.
Merci Grégoire Rivière, coordinateur terrain à Gaza pour l'ONG Solidarité Internationale. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur RFI.
Merci.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
Qu'est-ce que le franc CFA ? Par quel bout l'apprendre cette histoire que l'on ne comprend pas ? Avec Cathy Lena Ndiaye, réalisatrice du documentaire L'argent et la liberté, une histoire du franc CFA, nous remontons le fil de notre longue histoire commune. Une invitation à accepter le dur labeur de contester le savoir acquis.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
À tout à l'heure, à 14h10, temps universel sur RFI.